Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Alors voilà un évangile, je crois, que nous connaissons tous, et une parabole où le Christ, pour une fois, nous donne lui-même l'explication. Mais entre le récit de la parabole et l'explication, il y a une partie questionnante. Jésus s'écria: « Entendre qui a des oreilles pour entendre. Et à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais aux autres, c'est en parabole, afin qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. » Claude Tresmontant, qui est un théologien, philosophe des sciences et hébraïsant du XXe siècle, traduisait le verset que nous venons d'entendre, le verset de Luc, de la manière suivante. Jésus répondit: « C'est à vous qu'il a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour le reste des gens, ce que je dis est enfermé dans des comparaisons, en sorte que pour ce qui est de voir, il voit, mais en réalité, il ne voit pas. Pour ce qui est d'entendre, ils entendent, mais ils n'ont pas l'intelligence. » J'ai regardé la concordance chez Matthieu, qui traite de cet évangile aussi, et il est dit: « C'est pour cela que je leur parle en parabole, car ils ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, et ils ne comprennent pas. » Alors, on peut se poser la question, mais serait-il possible que Jésus, comme paraissent le sous-entendre les évangélistes, eût choisi les paraboles afin de n'être pas compris du peuple? Alors que justement, une parabole est une illustration par des choses matérielles de la vie de tous les jours pour faire comprendre des choses spirituelles. Pourquoi ne veut-il pas rendre les choses claires justement avec les paraboles? En somme, le Christ reprend les paroles du prophète Isaïe. Et par sa bouche, il dit: « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Alors, pour comprendre, il faut voir un petit peu d'histoire biblique. Au temps d'Isaïe, le peuple de Juda avait déjà fermé leurs yeux et leurs oreilles à la parole de Dieu. L'état moral de la nation était déjà tel que la plupart des habitants étaient complètement corrompus et indifférents à la loi de Moïse. En réalité, ce que demande le Seigneur à Isaïe, c'est de dire simplement la vérité, l'état de la situation. Et la plupart des gens allaient continuer à se fermer les yeux et à boucher leurs oreilles comme ils avaient fait avant. Ils ne seraient pas plus disposés à recevoir la parole de Dieu par la bouche du prophète Isaïe. La parole de Dieu, dit d'ailleurs saint Paul dans son épître aux Corinthiens, donne aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et ici, c'est bien l'oubli de Dieu, la mort spirituelle qui régnait parmi le peuple de Juda. Et la majorité continua à ne rien entendre. Alors d'autres se sont peut-être convertis, ça c'est possible. La vérité est parfois irritante pour celui qui ne veut pas entendre, qui a le cœur endurci. Et cette vérité aura pour conséquence un endurcissement encore plus fort de leur cœur, un rejet plus marqué. Rappelons-nous l'endurcissement du cœur de Pharaon, qui malgré les demandes répétées de Moïse, et les preuves de la volonté de la puissance divine continuaient a refusé de libérer les Israélites. En somme, c'est un comportement humain qui refuse de voir la réalité. Dieu ne veut pas endurcir le cœur des hommes par plaisir. Au contraire, son dessein est de sauver l'humanité. Mais il ne peut pas sauver les pécheurs qui refusent obstinément de croire en son amour et sa miséricorde. L'envoi d'Isaïe était une preuve supplémentaire de son amour. Il dit encore dans une autre partie, « J'ai tendu sans cesse mes mains. Tous les jours, j'ai étendu mes mains vers un peuple qui n'en voulait pas et qui préférait n'en faire qu'à sa tête. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit saint Paul dans son épître à Timothée. Dieu ne veut pas sauver en contraignant la volonté humaine. Il laisse l'homme de choisir de demeurer loin de lui ou de le suivre pour accéder au royaume de Dieu. Mais sans cesse, il nous redit son message d'amour. En somme, ce n'est pas la parole qu'il faut blâmer, mais la façon dont nous allons la recevoir, dont nous allons l'entendre. Si nous ne voulons rien entendre, elle pourra nous être dite sous n'importe quelle forme, nous ne l'entendrons pas. La parole est là pour nous aider à saisir les réalités du monde spirituel. Et Jésus commençait d'ailleurs souvent ses paraboles en disant « Le royaume des cieux est semblable à une vigne, à un grain de sénévé ou quoi, une pièce de monnaie. » Et il utilisait des exemples de notre condition humaine pour nous faire réfléchir et entrevoir les réalités divines. Et il dira aussi, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ?» Des réalités qui échappent à nos sens. Avec la parabole du semeur, il s'adresse à des paysans, des laboureurs, qui chaque année doivent semer et entretenir leur terre s'ils veulent avoir une récolte. Et ils savent que le terrain est le plus important. Et dans la parabole, d'ailleurs, Jésus montre tout ce qui peut arriver si le terrain n'est pas bon. La semence du semeur, elle ne peut être que bonne. Il la connaît, puisque, comme nous dit l'Évangile, c'est sa semence. Lorsque le Christ parle, ce sont les paroles de Dieu qu'il prononce. Il est la bouche de Dieu. Mais de la nature du sol va résulter le sort de la semence, la parole de Dieu. Dans le premier terrain, la semence ne germe même pas. Et ce sont d'ailleurs deux causes extérieures, je vais dire, à l'agriculture qui empêchent la germination. C'est le piétinement par les personnes qui marchent sur les grains et ce sont les oiseaux qui viennent les manger. Dans le second terrain, la germination, elle prend, mais le manque de substrat, et ça c'est une cause interne, et le manque d'humidité, ça c'est une cause externe, font que la plante va dépérir rapidement. Dans le troisième terrain, il est déjà occupé par d'autres germes qui poussent en même temps et qui étouffent la plante. Ce sont des causes purement internes, ça. Et enfin, dans le quatrième terrain, la semence accomplit tout le cycle de la végétation. Elle est tombée dans la bonne terre, le terrain qu'on attend, et la fertilité est au rendez-vous. Alors, le premier terrain représente ceux qui sont insensibles à la parole de Dieu, qui n'ont aucune affinité avec l'évangile du Christ. La parole reste étrangère à leur cœur et ils suivent les publicités extérieures du monde présentées par le démon, par le Satan, par le malin. Nous dirions que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Le deuxième terrain, ce sont les cœurs légers. Les cœurs qui s'enflamment, c'est nouveau, ils sont attirés, mais ils sont attirés superficiellement. Leur cœur reste de pierre. Dès qu'il faut s'engager, ils ne sont plus là, ils abandonnent. L'évangile n'est qu'une parenthèse dans leur vie jusqu'à la prochaine nouveauté qui les touchera. Le troisième terrain, ce sont des cœurs sérieux mais partagés. Ils recherchent le salut, ils recherchent le sens de la vie, ils reconnaissent la valeur de l'évangile, mais ils veulent aussi jouir des biens terrestres, du confort que procurent les biens matériels. Ils choisissent souvent les biens du monde et délaissent de plus en plus l'évangile, délaissent la parole de Dieu. En somme, la semence qui pousse dans leur cœur finit par mourir, étouffée par les soucis, la richesse matérielle et les plaisirs de la vie, comme nous dit le Christ dans l'Évangile. Ils ne mettent pas la construction du royaume de Dieu, le royaume de l'amour, comme leur priorité. Et dans le quatrième terrain, là, ce sont les besoins spirituels qui sont l'axe de leur vie. Ils écoutent et ils mettent en pratique. Ils persévèrent malgré les difficultés et la semence croît vigoureusement et donne du fruit. L'établissement du royaume de Dieu par le Messie est une voie lente, une voie laborieuse, qui s'enracine dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est notre cœur ouvert à la grâce divine. C'est le travail de toute une vie de préparer notre terre intérieure pour que la semence y porte des fruits. Laisser germer la parole de Dieu dans notre cœur, c'est laisser agir l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, grandeur d'âme, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, nous dit saint Paul dans son épître. Il nous est demandé de la persévérance pour que la semence croisse jusqu'au fruit. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.